parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin.
Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Notre collectif nancéen échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et toutes. Dans cette émission, nous aborderons la question des migrations, car nous sommes dans un contexte dans lequel c'est un objet, un sujet instrumentalisé, nous le verrons dans l'émission, pour nous faire peur, et on a des ministres de l'Intérieur qui, les uns après les autres, proposent de lutter contre l'immigration qui serait un danger pour nous toutes et nous tous. Nous allons essayer de déconstruire tout ça dans ce numéro de Parole de paix. Dans cette émission, nous sommes avec Catherine de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Et avec Brigitte du Syndicat des avocats de France, le SAF, et aussi membre de la LDH.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Et donc moi, Stéphane Tabourin, du mouvement de l'objection de conscience. On commence comme d'habitude par quelques brèves locales ou pas locales d'ailleurs. Qui commence ?
Eh bien moi je peux commencer. L'association France-Palestine Solidarité organise le 8 décembre une soirée autour de Gaza. 4 heures à Gaza pour faire le point sur la situation actuelle. Les auditrices et auditeurs doivent certainement voir dans les médias qu'on a affaire à une situation sanitaire, humaine, absolument dantesque à Gaza. Et l'association France-Palestine Solidarité, naturellement, est très préoccupée par cette situation, demande depuis 7 semaines des cessez-le-feu, organise des manifestations pour attirer l'attention de l'opinion publique sur cette situation horrible. Et là, on a décidé de faire une soirée, un focus, donc sur Gaza. On va proposer. Alors, ça va être à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, donc le 8 décembre. Je ne connais pas encore l'heure, je pense que ce sera à 20h, peut-être à 19h. En tout cas, on le redira dans les réseaux sociaux. Et donc, il va y avoir des photographies qui seront présentées, des photographies très récentes d'un photographe qui est sur place, qui est en lien avec une personne qui est à Paris, qui va venir, qui va nous parler de la situation de ce photographe et qui va expliciter les photographies qui nous seront présentées. Nous aurons plusieurs interlocuteurs également de Gaza et une personne qui va nous parler également de la situation en Cisjordanie, parce que on a la chance d'avoir un Palestinien qui est actuellement en Europe et qui va pouvoir nous donner des informations extrêmement actuelles. Ce sera vraiment quasi du direct, voilà, sur la situation en Palestine, qui est absolument horrible. On peut pas dire les choses autrement.
Oui, donc on ne peut que inviter les auditeurs à venir au centre, à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine le 8 décembre. Pour avoir des informations régulières, on peut, sur les horaires, tu disais Brigitte, on peut envoyer un mail à afps.lorsud@orange.fr et effectivement, dans la période de massacre sur Gaza, bon, il y a des petites trêves en ce moment. En tout cas, il faut suivre l'actualité de l'AFPS qui a organisé, grâce à vous, les avocats, des manifestations sur Nancy, et il y en aura peut-être encore. Donc il faut se tenir prêt à soutenir la paix, à soutenir la fin des massacres, des bombardements sur les civils, femmes, enfants, vieillards à Gaza. Également, ce qui se passe en Cisjordanie est important. Donc suivez l'actualité de l'AFPS, on vous le conseille.
Sur Insta, sur Facebook, on donnera toutes les informations et notamment l'heure du 8 décembre. Alors, toujours pour la Palestine, il y aura une manifestation à Paris le 2 décembre 2023 à 14h, place de la République. Il se trouve que nous n'allons pas organiser à Nancy une manifestation parce que nous serons au congrès de la FPS qui va se dérouler à Paris. On sera sur Paris et c'est la raison pour laquelle on n'a pas été à l'initiative à Nancy ce week-end d'une manifestation. Mais en tout cas, voilà, pour celles et ceux qui s'intéressent à cette question, je vous indique qu'il y aura cette manifestation à Paris. Mais d'ailleurs, regardez les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a à Metz, à Strasbourg, dans la région. Suivre.
Tu avais une brève aussi, Catherine ?
Oui, concernant le 18 décembre, c'est ça
que sur les sujets. Moi, je voulais que tu nous parles de l'Observatoire des pratiques policières en manifestation, qui s'est créé à Nancy.
La LDH a créé un observatoire des pratiques policières et nous nous sommes rodés pour la première fois lors de la dernière manifestation pour la paix en Palestine. Bon, tout s'était bien passé, mais on est en train de se roder. Alors, tous ceux que ça intéresse, ils peuvent contacter la LDH.
Je redonne le mail de la LDH. LDH-Nancy@LDH-France.org.
Voilà, donc ça nécessite une petite formation.
Allez en organiser une bientôt, une deuxième formation.
On pensait en organiser une à nouveau en janvier. Alors, on va voir suivant les demandes.
Si vous voulez bien, je rappelle le principe. La LDH, ce procédé que la LDH a mis en place a été surtout connu au moment
De Sainte-Soline.
Donc, on est dans une période où c'est difficile de croire la police républicaine, entre guillemets, parce que on voit qu'ils mentent, on voit qu'ils déforment la réalité, qu'ils inventent des choses qui ne sont pas vraies. Donc la LDH, je ne sais pas si c'est les premiers, en tout cas, ont décidé en France de créer un observatoire, c'est-à-dire des personnes qui sont neutres, qui viennent sur les manifestations, qui filment, qui enregistrent, qui prennent beaucoup de notes.
Ça existe depuis plusieurs années.
Oui, ça a été créé avec le SAF, avec le syndicat des avocats de France, et je crois que c'est Toulouse le premier.
Et donc l'idée, c'est de rapporter pièce par pièce tout ce qui s'est passé. Ensuite, un rapport est fait, il est archivé et peut servir aux besoins pour la justice ou pour.
C'est ça.
Et donc, pour que ça serve de preuve, pour que ce rapport ait une valeur probatoire, il y a un certain nombre de règles à respecter. Ça s'est créé de manière empirique, mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ceux qui participent avec la casquette observateur, ne peuvent pas être manifestants.
Ils
doivent respecter un certain nombre de règles pour que les observations soient objectives et puissent étayer une enquête du procureur de la République, étayer une enquête quelconque. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux et ça a été extrêmement précieux à l'occasion de Sainte-Soline
Il y a d'ailleurs une charte de l'observateur à signer et les démarches actuelles de la LDH, c'est de faire reconnaître le statut d'observateur, comme il y a les statuts de lanceur d'alerte, voilà. Et donc ça, c'est en train d'avancer.
Et d'ailleurs, avant la manifestation, je crois que vous faites une déclaration à la préfecture pour dire, voilà, telle et telle personne seront des observateurs. Je ne sais pas à quelle autorité vous faites la déclaration.
On doit déclarer à la préfecture, on n'est même pas obligé, qu'il y aura des observateurs localement, mais on doit s'adresser aux forces de l'ordre.
Sur place, pour se présenter.
Il y a les deux.
Et vous êtes aussi identifié avec une chasuble blanche marquée dessus observateur.
Oui, vous nous avez vus.
Oui, on vous a vus. Donc je rappelle que si vous êtes intéressé par devenir observateur des pratiques policières dans les manifestations, il faut joindre la LDH ou simplement pour des informations, Brigitte le disait, pour savoir quand aura lieu la prochaine formation. Donc encore une fois, ldh-nancy@ldh-france.org, tout en minuscules.
Alors Stéphane, je rajoute encore une petite chose. Tu as dit observateur en manifestation, mais il y aura aussi l'étape suivante, on espère qu'elle n'existera pas, qui serait observateur au tribunal.
Ah,
des jugements pour faire des rapports aussi. Donc ça aussi, c'est prévu.
Toujours dans cette problématique des violences policières, c'est-à-dire quand il y a des poursuites, eh bien, vous allez jusqu'au bout pour voir comment ça se passe, etc.
Ça sera prévu.
Intéressant. Oui, effectivement. Alors, j'avais une autre brève qui concerne la loi Darmanin, c'est-à-dire le sujet du jour. Il y a un appel à la mobilisation générale partout en France le 18 décembre 2023. C'est un appel pour l'instant de 14 collectifs de sans-papiers de la Marche des Solidarités et de plus de 200 organisations contre le projet de loi Darmanin. Il reste ouvert aux signatures. Donc, celles et ceux qui sont intéressés, collectifs, coordinations, associations, syndicats, partis, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse marche-des-solidarités@riseup.net pour dire que vous vous associez à cette journée. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du GISTI et aller sur l'onglet Action collective et vous trouverez toutes les informations de cette manifestation, de cette mobilisation générale partout en France, qui est à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Oui. Le 18 décembre n'a pas été choisi par hasard. C'est parce que c'est une date annuelle qui concerne donc les migrations internationales. Mais là, comme on a une actualité extrêmement prégnante en France, eh bien, c'est une mobilisation contre la loi Darmanin. On va vous expliquer dans un instant à quel point cette loi va être absolument catastrophique pour les étrangers en termes de restriction de leurs droits.
Et je précise pour les auditeurs et auditrices que si vous cherchez sur Internet Justice avec un G, G-I-S-T-I, donc vous mettez GISTI et je pense qu'on trouve très facilement le site.
D'ailleurs, c'est une mine d'informations sur tout ce qui concerne les étrangers. Comme le site de la CIMADE, mais celui du GISTI est vraiment incroyable. Il y a vraiment énormément d'informations.
Voilà, c'est un peu moins grand public. Pour lire les articles du GISTI, il faut quand même un peu plus se pencher sur le droit.
Oui.
La CIMADE, c'est quand même plus grand public.
Oui, tu trouves que c'est plus abordable.
CIMADE, C-I-M-A-D-E. Et il y a un groupe CIMADE aussi à Nancy, je crois qu'on peut aussi rejoindre et retrouver.
Je voulais rajouter, en ce qui concerne le 18 décembre, il y aura une mobilisation à Nancy, mais peut-être pas le jour même. Voilà, donc il faut se tenir au courant, on pourra avoir des informations sur les réseaux sociaux. Mais
on vous
y aura
en reparlera. Certainement que ce sera un samedi, c'est ça?
Je pense que ce sera plus un week-end.
Le samedi précédent ou le samedi d'après?
Oui.
D'accord.
Moi, j'ai aussi une brève aussi pour le 18 décembre, plus localement. Alors, à Nancy, donc dans le cadre du SNU, Service National Universel, le MOC fait partie des organisations attachées à s'opposer, à combattre le Service National Universel, que le gouvernement continue de maintenir alors que c'est une catastrophe, ça ne marche pas. Donc il faut forcer les jeunes à faire ce service national universel, lever au drapeau, marseillaise et marcher au pas, et uniforme. Donc le collectif contre le SNU de Nancy, qui regroupe une vingtaine d'organisations, d'associations, propose une réunion publique contre le SNU lundi 18 décembre de 18h à 20h à la MJC Lillebonne. Donc lundi 18 décembre 18h-20h MJC Lillebonne, réunion publique contre le SNU. Tous les syndicats d'enseignants y sont opposés, les jeunes y sont opposés. Bon, à part quelques-uns qui sont volontaires pour le faire, mais l'urgence, c'est que il y a une volonté de contraindre, de forcer, et la nouveauté actuellement, c'est de faire qu'il y ait un maximum de classes de seconde. Donc c'est à l'intérieur de l'école, du lycée, que va se faire le recrutement, avec des classes dites engagées, dans lesquelles des professeurs payés vont engager leur classe à faire un service national universel. Moi, personnellement, j'ai été alerté par un jeune de seconde, je cite, du lycée Poincaré, qui a dit qu'il était désolé. Moi, il était assez abattu parce que son professeur principal lui avait annoncé qu'ils allaient faire du SNU au printemps 2024. Et donc, il est urgent sur Nancy de s'opposer. Actuellement, il y a des tracts qui sont distribués devant tous les lycées de l'agglomération tout ce mois de novembre-décembre. Et donc, ça ne se terminera pas, mais une réunion publique est prévue le 18 décembre.
Et finalement, c'est les jeunes qui viennent te voir, parce qu'en fait, ils veulent des outils pour résister.
Ils ne veulent pas y aller. Et moi, je leur dis...
Donc, il faut les aider, en fait.
Oui, il faut les aider, parce que s'ils sont tout seuls à refuser, parce que les menaces sont lourdes. Permis de conduire, on a le parcours sup. Ils vont être fortement, fortement menacés. Et donc, ils ont besoin de l'appui et de l'aide des parents, des adultes, des associations, des syndicats d'enseignants qui sont tous opposés à ce service national universel qui va coûter très cher et qui va ne servir à rien à part à montrer aux vieux électeurs que les jeunes on les tient et qu'ils vont se tenir sages. J'invite les unes, les uns et les autres à joindre le collectif qui a une nouvelle adresse mail. Donc le collectif contre le SNU de Meurthe-et-Moselle, on écrit... Non au SNU tout attaché, NONAUSNU 54, non au SNU 54, tout attaché, @proton.me. Non au SNU 54, @proton.me. Voilà pour une information un peu pacifiste sur Nancy.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet désormais. Alors,
on fait une petite pause musicale avant et on commence le dossier sur la question des migrants et
le nouveau projet de loi
Darmanin
sur l'asile et l'immigration.
Et les amendements terribles du Sénat.
Voilà.
Tout à fait. Donc, c'est parti pour. On écoute Alain Souchon qui nous chante Elle danse.
D'un bobo bien habillé, et pour ne pas oublier, elle danse sous les peupliers mouillés. Ne pas oublier les pas que lui ont appris là-bas, sa maman et son papa, elle danse pour ça. Elle danse le tropique, elle danse l'équateur, les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur, la voix, elle danse là-bas. Son pays pouille pillé, son pays tout dépouillé, son président fou allié. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis. Elle danse les voleurs, elle danse un malheur, les vendeurs de shit qui bloque l'ascenseur, rigole, disent elle est folle. De boue rouge, hors toit de paille. À la télé hier au soir, ils ont dit qu'à Gibraltar, un bateau s'est retourné, la mer était démontée. Ce sont des enfants perdus, les larmes ont brouillé sa vue, le passeur leur avait dit le mot paradis. Elle danse la poussière,
elle danse la misère. Les vendeurs de shit qui trafiquent derrière la voix, elle danse là-bas. Sous les peupliers mouillés,
onze heures midi, parole de paix sur RCN.
On retrouve Parole de paix sur rcn-radio.org, sur le site on peut avoir le podcast en allant dans la partie société, et également on retrouve l'émission Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN, rcn-radio sur YouTube, on nous trouve. Ce mois-ci, nous ouvrons un dossier qui, hélas, est dans tous les médias et dans beaucoup de paroles politiques. Mais nous l'ouvrons d'une autre manière. Nous parlons de la loi de Darmanin, la loi immigration. Les médias, les partis politiques, de plus en plus, ont infusé de plus en plus les discours racistes de l'extrême droite, et nous font peur et nous disent que vraiment l'immigration, c'est un problème, c'est vraiment très très grave, ce que nous ne croyons pas du tout à parole de paix, et heureusement dans une certaine frange de la population française qui se laisse pas avoir, mais force est de constater que les médias nous rabattent les oreilles avec ce discours-là, et donc chaque petit ministre de l'Intérieur veut montrer qu'il est plus à droite que le précédent, et donc lui aussi remue les choses pour nous dire « Ah, il faut lutter contre l'immigration, il faut lutter contre l'immigration ». C'est un mensonge, une illusion qui peut nous atteindre tous, et c'est important. Des émissions comme la nôtre pour un peu déconstruire ça, voir un peu quels sont les biais, voir un peu quels sont les angles d'attaque de tous ces discoureurs bien à droite qui veulent nous faire peur avec l'immigration. Et en décembre 2023, à partir du 11 décembre, la discussion s'enclenche à l'Assemblée nationale. Elle a déjà commencé au Sénat. Eh bien, avec la LDH, avec le SAF, on va un peu décortiquer tout ça tranquillement et regarder que comme disait Brigitte, que c'est une loi qui est une funeste loi qui sent vraiment pas bon, et qu'il est important de pas se faire avoir par leur discours.
Il faudrait au moins 3 émissions, parce qu'il y a plein de... Tout est caché dans les détails,
ouais.
Et ce qu'on entend, c'est...
Alors, donc, il s'agit d'un projet de loi. Il ne s'agit pas d'une loi, parce qu'elle n'a toujours pas été votée. Elle est votée en procédure accélérée, ce qui fait qu'il n'y aura pas de navette.
Navette, c'est-à-dire une navette, c'est le projet de loi
passe... Il peut y avoir plusieurs navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale, jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un texte. C'est une procédure accélérée, donc il ne peut pas y avoir d'aller-retour. Le Sénat a déjà voté donc, et a considérablement durci le projet de loi qui était déjà particulièrement restrictif. Et il est actuellement discuté donc, à la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il devrait être voté, il va bientôt passer en plénière à l'Assemblée nationale, une fois que la Commission des lois se sera mis d'accord sur un texte. Donc à la mi-décembre, il va être discuté à l'Assemblée, et début 2024, la commission mixte paritaire se réunira pour se mettre d'accord sur un texte final. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas de navette, c'est la commission mixte paritaire qui aura le dernier mot.
Et une commission qui est constituée comment? De quelques députés, quelques sénateurs?
Très peu.
Oui.
Choisi par qui? Choisi par la responsable de l'Assemblée nationale par...
Oui, ben c'est ouais. un panel. Et donc, en gros, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Hein, quand même, il faut le savoir. Mais comme notre gouvernement a une très courte majorité, il est obligé de négocier. Alors, on va vous parler actuellement d'un projet de loi, c'est-à-dire que ça n'est pas la loi définitive, mais ça nous donne des indications sur ce qui sera voté. Donc, cette loi s'appelle... le projet de loi s'appelle « Pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ». Il est présenté comme un texte équilibré qui repose sur l'idée que il faudrait donc contrôler l'immigration et en même temps soutenir, améliorer l'intégration.
Or, il faut être tout le monde gentil avec les gentils, méchant avec les méchants.
Voilà, tout le monde s'accorde à dire, que ce soit la Défenseure des droits, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, le SAF, la CIMAD, le GISTI, enfin toutes les associations, organisations qui s'intéressent à cette question, disent que il n'est absolument pas équilibré, que les maîtres mots de ce projet de loi, c'est plutôt stigmatisation, exclusion, expulsion, enfermement, avec une logique de défiance et de restriction du droit des étrangers. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est effectivement dans un contexte d'inflation législative, puisque depuis une trentaine d'années, tous les deux ou trois ans, on a une réforme d'ampleur en droit des étrangers, ce qui devient absolument catastrophique.
Qu'aucune ait été évaluée, sans que la précédente...
Oui, alors là, il y a eu une petite étude d'impact, parce que le Conseil d'État, dans le cadre de la dernière loi en 2018, avait tapé du poing sur la table en disant que c'était vraiment plus possible d'accumuler les lois, de les empiler parce qu'on ne comprenait plus rien. Donc là, il y a une petite étude d'impact avant cette loi, qui est totalement biaisée, qui repose sur des chiffres qui sont totalement erronés. Et d'ailleurs, j'ouvre tout de suite une parenthèse. Si les auditrices et auditeurs veulent avoir des informations sur l'état des migrations, mais pas en chiffres absolus, en chiffres relatifs, c'est-à-dire comparés aux autres pays européens, comparés dans le temps, il y a les données de François Errand, qui est un grand démographe, professeur au Collège de France, qui est maintenant en charge de la chaire migration, et il décrypte à longueur de textes, d'articles, d'interventions, la situation des migrations. Parce que, effectivement, on nous présente, on agite les chiffons rouges en disant que on est submergé par les migrants, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, cette nouvelle loi est là pour restreindre de manière extrêmement forte les droits des étrangers. Et comme tu le disais, Catherine, tout à l'heure, c'est une loi qui va vraiment dans tous les sens. Hein. Que ce soit à l'entrée du territoire, que ce soit au niveau de l'asile, que ce soit au niveau des droits de séjour, que ce soit au niveau de la rétention, que ce soit au niveau des procédures. C'est une loi qui vraiment balaye tous les aspects de la vie des étrangers, non seulement sur leur sur la manière dont ils vont avoir un titre de séjour, mais également sur le contentieux et sur la procédure. Alors, on va commencer par ce qui traverse toute cette loi, c'est l'instrumentalisation de la menace à l'ordre public. C'est-à-dire que il y a à travers la manière dont on présente désormais les étrangers, et d'ailleurs les discussions au Sénat étaient assez révélatrices sur ce point, il y a un amalgame qui est vite fait entre les étrangers et les délinquants. Et même lorsqu'ils ne sont pas délinquants, ils sont suspectés de l'être. Et c'est par la menace à l'ordre public qui désormais infuse tous les aspects de la vie des étrangers, eh bien que ce projet s'attaque aux droits des étrangers.
Il faut dire que la menace à l'ordre public, c'est une notion complètement floue.
Exactement. Tout à fait.
On décide.
Voilà, on décide, voilà.
Que tu es une menace.
Tu es une menace, oui.
Oui, tu es une menace.
Et plus encore si ça se voit sur ton...
Oui, sur, à la couleur,
à la couleur
de ta peau.
Voilà.
Oui, oui. Oui. Et effectivement, c'est ça le très grand problème. Tu as Ça n'est pas défini. Et ça permet donc un arbitraire très très important de la part de l'administration qui pourrait utiliser n'importe quel type de menace. Et il y a une autre chose aussi qui est instrumentalisée, mais vraiment, c'est le niveau de français. L'apprentissage du français, et ce n'est pas seulement l'apprentissage du français, c'est avoir un diplôme en français qui, là, est aussi un obstacle qui est utilisé à de très nombreux endroits donc, de cette loi.
Peut-être donner quelques précisions. Je reviens sur la menace à l'ordre public. C'est-à-dire que si l'étranger sera inquiété pour une infraction ou un délit, même sur dénonciation calomnieuse, avant le procès, on dira c'est une menace à l'ordre public et il y aura possibilité de l'expulser, même si le procès montre que c'était infondé et qu'il y a un non-lieu. Voilà.
Alors,
donc ça, c'est embêtant.
Alors effectivement, c'est-à-dire qu'on va se baser sur la peine encourue,
oui,
et non pas forcément sur la condamnation prononcée. Alors, donc la menace à l'ordre public est utilisée donc pour empêcher les personnes d'obtenir un titre de séjour, de renouveler leur titre de séjour, et surtout, c'est une manière de faire sauter les protections. C'est-à-dire que dans le cadre des obligations de quitter le territoire français, il y a des personnes qui bénéficient de protection. Les pères d'enfants, les pères ou mères d'enfants français, les personnes malades, etc., etc. Et là, la menace à l'ordre public va permettre de lever toutes les protections qui existent, ou les personnes qui sont rentrées avant l'âge de 13 ans. Et M. Darmanin tient beaucoup aussi à cette possibilité de faire sauter les protections en matière d'obligation de quitter le territoire. Même chose en matière d'interdiction de retour. Hein, les fameuses IRTF, avec des durées d'interdiction de retour sur le territoire français, qui seront beaucoup plus longues qu'avant, qui seront plus automatiques. Parce qu'en fait, c'est ça également que l'on voit dans cette loi, c'est le fait qu'il y aura un caractère beaucoup plus automatique, avec une marge d'appréciation qui sera plus restreinte pour l'administration. Et donc, une marge plus restreinte également pour le juge lorsqu'il appréciera la légalité de la mesure.
Alors, le Sénat a rallongé la durée des interdictions de retour.
Tout à fait.
Il la propose et met maintenant 10 ans.
Tout à fait.
Interdiction de retour pendant 10 ans.
Alors, il y a aussi une chose qui a été rajoutée dans le texte du Sénat, c'est le délit de séjour irrégulier. Depuis 2012, ça n'est plus un délit. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de titre de séjour depuis 2012 n'est pas considéré comme un délit. Ce qui fait que très concrètement, les personnes ne peuvent pas être placées en garde à vue du seul fait de ne pas avoir un titre de séjour. C'est l'application d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne suite à un arrêt Eldridi qui vient de l'Italie. Et donc, la France a été obligé de changer sa législation. Et au cours des débats, c'est Madame Boyer notamment qui est à l'origine de cet amendement. Tout d'un coup, le Sénat a sorti de son chapeau le délit de séjour irrégulier. Je peux vous assurer que nous, les avocats, on a été sidérés. On s'est dit, mais c'est pas possible. Ils vont pas revenir quand même sur cette jurisprudence, alors que la Cour de cassation, c'est contraire au droit de l'Union européenne. Ça vous montre un petit peu le degré d'incompétence de nos parlementaires.
De racisme et de crispation aussi.
Tout à fait.
Aussi d'incompétence.
Oui, et d'incompétence. parce que ça va être toqué. Grave. Oui, oui. C'est grave de revenir sur des jurisprudences de la CJUE. Je ne pensais pas qu'on pouvait revenir en arrière à ce point. Comme autre mesure particulièrement grave également, c'est la suppression de l'aide médicale de l'État. Là aussi, c'est au niveau du Sénat, au cours des débats, cette suppression de l'AME qui est pourtant décriée par de très nombreux médecins. J'ai vu que l'Ordre des médecins de notre département de Meurthe-et-Moselle s'y opposait, que des médecins ont déjà annoncé qu'ils désobéiraient à cette loi si elle était votée en l'état, parce qu'elle va clairement mettre en danger eh bien, des personnes. Alors je ne sais pas
si ça va
passer.
Des personnes et leur entourage, parce que si quelqu'un est infecté, ça va être une question de santé publique. Et en plus d'être de contredire le serment d'Hippocrate des médecins qui doivent soigner toute personne. On ne peut pas laisser quelqu'un malade et le regarder, c'est inhumain.
Tout à fait. Alors, ça pose des problèmes de santé publique extrêmement importants, d'où la levée de bouclier de la part des médecins. Ça n'est pas sûr que ça reste dans la loi, parce que certains considèrent que c'est un cavalier législatif.
C'est-à-dire
mais ça revient, c'est-à-dire que ça arrive, parce que ça concerne le code de la santé publique. Alors que
c'est juste pour marquer les esprits,
les dispositions. Les dispositions de cette loi concernent plutôt le CESEDA, c'est-à-dire le Code des étrangers du séjour et du droit d'asile, concernent plutôt le Code pénal, mais pas le Code de la santé publique. Donc, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire c'est hors propos, hors sujet. Et donc, le Conseil constitutionnel pourrait retoquer, mais il faut quand même dire que c'est un sujet qui revient régulièrement, ces attaques de la droite.
C'est pour marquer les esprits.
C'est aussi pour marquer les esprits. Ouais, alors que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne représente pas grand-chose dans le budget et que c'est absolument essentiel de pouvoir soigner les personnes.
On nous fait croire que les Français sont contre cette aide médicale d'État. On nous a dit c'est pour se faire recoller les oreilles pour aller en cure thermale. Médecins du Monde a commandé un sondage. Bon, j'ai plus tellement les chiffres en tête. Ils ont interrogé donc des Français. C'est un institut de sondage sérieux qui l'a fait. 60% des Français répondaient qu'ils étaient favorables à l'aide médicale d'État. Et ensuite, quand on leur expliquait quel était le contenu du panier de soins, ça passait au-delà de 70%.
Mmh. Oui.
Donc voilà. Donc il y a une désinformation totale. Oui.
Donc, et médiatique et politique pour instiller dans les esprits.
Pour supprimer le droit à la santé pour les étrangers.
Alors, sinon, comme mesure particulièrement restrictive de cette loi, de ce projet de loi, nous avons la restriction du droit de vivre en famille via le regroupement familial, la réunification familiale ou les titres de séjour pour motifs familiaux. C'est-à-dire que, ça va être difficile de rentrer dans le détail de toutes ces mesures, mais il faut garder à l'esprit que, par exemple, pour le regroupement familial, il s'agit de faire venir des membres de sa famille, des enfants, des conjoints, etc. Étant précisé que ça représente 20 000 personnes par an, hein. Donc vraiment, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, ça touche le droit le plus élémentaire, le plus fondamental de vivre en famille. Eh bien là, il va y avoir des conditions supplémentaires pour demander le regroupement familial, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 21 ans, il faut, alors qu'actuellement c'est 18 ans, il faut avoir un titre de séjour depuis 24 mois, alors que maintenant c'est 18 mois. Enfin, bref, il y a des tas de conditions. Et puis surtout, il faut que la personne qui arrive ait un bon niveau de français. Or, c'est ici qu'elle va apprendre le français. Donc ça n'a pas de sens. Pour des pays francophones, c'est pas grave. Par contre, pour des Afghans, etc., c'est...
Même pour des pays francophones, c'est grave. Parce qu'il faut un diplôme.
Tout à fait.
Donc absolument. Il faut la possibilité d'avoir passé le diplôme. Alors... niveau A2, c'est-à-dire au moins fin de collège ou fin de lycée, dans le pays d'origine. Et puis il faut peut-être aussi rappeler, parce que tu n'as pas précisé, pour le regroupement familial, tu fais pas venir ton frère qui a 25 ans, ta sœur, ta cousine.
C'est vraiment la famille.
Bien sûr. Enfin, je pense c'est ça. Vraiment conjoint,
oui, c'est les
enfant,
mineurs,
hein, c'est,
les
mineurs, hein, c'est tout.
Oui, oui.
Ouais. Moi, ma grand-mère, quand elle a, mon arrière-grand-mère, quand elle est arrivée d'Espagne, elle parlait pas un mot de français. Elle a effectivement appris, elle savait pas lire le français. Et comme la plupart des Français, on a souvent dans nos familles des gens qui sont arrivés d'un pays étranger. Oui. Et c'est vrai que c'est assez. J'imagine, s'il avait fallu demander à mon arrière-grand-mère d'avoir un diplôme en français, et comme tu le dis Brigitte, le français, il s'apprend en vivant, et effectivement, ça sera bien plus souvent la génération suivante qui sera totalement scolarisée et qui elle, aura les différents diplômes qu'on obtient dans l'école française.
Alors, on nous fait croire que l'intégration, elle vient de la du français, de la connaissance du français, mais non, elle se fait par le logement, l'école, le sport,
le travail, les collègues.
Et en fait, ça devient une condition pour empêcher les personnes d'exercer leurs droits. Et c'est la même chose en matière de titre de séjour, où là, il faut un diplôme de français pour obtenir une carte de résidence, et pas seulement l'assiduité à des cours de français, sans tenir compte, là aussi, de la jurisprudence, où il y a des accommodements pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui ont des handicaps, etc. Non, là, il n'y a plus rien. C'est tout le monde est à la même enseigne, avec une même condition extrêmement drastique. Même chose pour la nationalité. Et je me disais d'ailleurs que les centres de formation sont en train de se frotter les mains parce que ça va être un marché absolument incroyable. Oui. Tous les étrangers vont être obligés de suivre des cours, de passer des examens, etc. Et ça va vraiment être très très compliqué pour de nombreuses personnes.
Et quand on voit que pour ceux qui obtiennent l'asile, pour les réfugiés, les cours de français, c'est vraiment le strict minimum. C'est quelques centaines d'heures. Mmh. Alors que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas une langue et qui ne l'écrit pas, on compte à peu près 3000 heures avant de pouvoir se débrouiller.
Et ce projet de loi, il veut s'appliquer à l'ensemble des non-français, des gens qui viennent en France, parce que moi, dans mon école, il y a des parents ukrainiens qui ne parlent pas un mot de français. Alors, est-ce que Darmanin veut rejeter les Ukrainiens?
Les Ukrainiens bénéficient d'un
système à part. Voilà, d'accord.
Bah oui, c'est l'application d'une directive. Et heureusement qu'on on leur a offert cette possibilité.
En fait. Ça devrait être la
normalité. Dommage qu'on n'ait pas permis en 2015 aux Afghans et aux Syriens fuyaient les horreurs de la guerre. Que cette directive protection temporaire n'ait pas été appliquée pour eux.
Hein. Oui.
Donc non, les Ukrainiens pour l'instant sont épargnés de cette des rigueurs de cette loi. Alors, il y a vraiment énormément de dispositions. Nous, ce qu'on a voulu vous donner, c'est un aperçu de toutes les exigences qui sont désormais, qui se dressent désormais devant les étrangers. Ça peut être également en termes de nationalité française, alors que jusqu'à maintenant, les enfants nés en France, de parents étrangers, s'ils ont été scolarisés au moins 5 ans, devenaient automatiquement français. Désormais, ils vont devoir, à leur 18 ans, faire une déclaration de nationalité, c'est-à-dire demander de la nationalité. Ceux qui ne le savent pas, ne pourront pas exercer ce droit. Voilà, donc il y a de très nombreuses dispositions. Alors,
à chaque demande de nationalité, le timbre fiscal passe de 50 euros à 250.
Oui.
Donc ça va limiter aussi pour les familles, pour des enfants, parce que sortir 250, surtout s'ils sont ajournés à 2 ans, comme c'est le cas en ce moment, on recommence tous les 2 ans.
Pour les étudiants étrangers, si on parle de l'aspect financier, c'est vraiment un pur scandale ce qui se passe déjà actuellement. Et je crois que leur situation va être encore aggravée.
Ils veulent augmenter les frais et mettre dans la loi, dans le code de l'éducation, qu'il y aura un tarif différent pour les étudiants français à l'université et pour les étudiants étrangers. Oui. Parce que pour l'instant, ce n'est pas dans le code de l'éducation.
Alors, pour les métiers en tension, alors, parce que ça, on nous en fait, on nous rabat les oreilles dans les médias avec les métiers en tension, c'est-à-dire que donc notre gouvernement a voulu justifier cette nouvelle loi en disant qu'il fallait régulariser un certain nombre de personnes et qu'on allait utiliser un instrument extraordinaire, c'est-à-dire les métiers en tension. Nous, on n'arrêtait pas de dire, mais vous avez déjà tous les outils pour régulariser les personnes. Vous avez des dispositions dans le code des étrangers. Vous avez une circulaire de M. Valls, qui n'est quand même pas connu pour être la personne la plus ouverte, etc. Tolérante. Mais en tout cas, qui avait pris un texte tout à fait intéressant le 28 novembre 2012, qui permet la régularisation, effectivement, de nombreuses personnes. Alors, il y a différents critères. Il y a la scolarité des enfants, la durée du séjour, mais pour le travail, donc pour la régularisation concernant le travail, si les personnes ont soit 8 mois de bulletin de salaire, soit 24 mois en fonction de la durée du séjour en France, elles peuvent être régularisées. Il se trouve que il n'y a qu'un tiers des préfectures qui appliquent la circulaire Valls. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans le 54, c'est no way. Hein. Vraiment, c'est... Bon. Voilà, on n'applique pas la circulaire Valls. Sachant que tout le monde s'accorde à dire que c'est contraire au principe de dignité, c'est contraire au principe selon lequel on doit protéger les personnes contre les risques de traite des êtres humains, eh bien, de laisser des personnes être exploitées par des employeurs et qu'il convient, c'est un motif d'ordre public, de les régulariser. Donc, on a voulu s'emparer, ce projet de loi a voulu s'emparer des métiers en tension. Le Sénat a considérablement durci cette possibilité. On devrait revenir sur un texte soit plus consensuel, mais il n'en reste pas moins que, contrairement à ce qui était prévu a priori, on ne devrait pas revenir sur du plein droit. Et donc, on devrait être sur un texte où, là encore, il va y avoir un large pouvoir d'appréciation de la préfecture. À la date d'aujourd'hui, très sincèrement, nous ne savons pas ce qui va sortir de la loi. En tout cas, le Sénat a voulu vraiment fermer la porte aux métiers en tension. Alors nous, ce qui nous inquiète beaucoup dans ces métiers en tension, c'est que, en fait, l'idée, c'est que les personnes vont peut-être obtenir un titre de séjour, déjà avec difficulté, parce qu'elles seront dans un métier en tension, mais un an plus tard, peut-être qu'elles ne seront plus dans un métier en tension, parce que ce sera en fonction d'arrêtés qui seront, qui sortiront tous les ans, de manière tout à fait aléatoire, sans qu'on ait aucune prise, etc. Et on est contre l'idée, en fait, d'une immigration qui soit jetable, qui soit, en fait, en fonction des besoins et uniquement des besoins des patrons, tout en faisant fi des droits fondamentaux des personnes.
Alors, il faut peut-être aussi rajouter que le Sénat, bon, il a durci les conditions, mais il renforce aussi les sanctions contre les employeurs. Oui. Donc, pour pouvoir régulariser un étranger, il faudra qu'il donne des bulletins de salaire, ça reste toujours. Des bulletins de salaire correspondant à un emploi qu'il n'avait pas le droit d'occuper. Et on durcit les sanctions contre le patron qui a délivré...
Oui, donc c'est un servicieux.
Donc, c'est un servicieux. Le patron... Enfin, je ne sais pas. Ouais. Je ne vois pas quel patron va pouvoir appuyer demande.
Et puis, le texte a durci aussi les conditions de la circulaire Valls. C'est-à-dire qu'il faut que la durée d'activité salariée soit d'au moins 12 mois, alors qu'avec la circulaire Valls, c'était 8. Il faut des exigences d'intégration. Toujours pareil, hein. Toujours les exigences d'intégration.
D'adhésion aux valeurs de la République, enfin,
voilà,
etc.
Voilà, adhésion au mode de vie et aux valeurs de celle-ci, voyez. Donc ça, c'est aussi une manière de donner prise aux préfectures, à certains agents malveillants, s'il y en a, 3 points de suspension, eh bien, d'empêcher que les personnes, alors qu'elles remplissent toutes les conditions, eh bien, se voient opposer un refus de séjour parce qu'elles n'auraient pas adhéré au mode de vie ou aux valeurs de la République, sans qu'on sache exactement ce que cela recouvre. Et ça, c'est très grave. Alors peut-être que ça ne passera pas au niveau du Conseil constitutionnel, parce que la loi doit établir de manière claire des règles. Et quand elle ne le fait pas, quand le législateur n'assume pas ce pouvoir, eh bien, ça peut être un moyen de déclarer anticonstitutionnel au moins cette partie de la loi pour incompétence négative. Ça que le, c'est-à-dire que le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de son pouvoir.
Et puis il y a un autre problème aussi. Dans le projet de loi, il est dit que la carte travail, elle serait temporaire.
Oui, bien
sûr. Même si la personne a un CDI, il faudra qu'elle renouvelle régulièrement. Et ailleurs, dans le texte de loi, le Sénat a rajouté un amendement qui dit qu'on ne pourra pas renouveler plus de 3 fois un titre de séjour sur le même fondement.
De toute façon,
donc ça ferait 3 fois 1 an. 3 ans et après,
raison.
on jette.
Tu as parfaitement raison. De toute façon, les idées forces de ce texte, c'est la reprise d'ailleurs des précédentes lois, hein, c'est de précariser au maximum les personnes.
Et stigmatiser.
En 1982, la carte de séjour de 10 ans était... la carte de séjour tout à fait de droit commun, tout à fait normale, que les personnes avaient quand elles arrivaient en France et qu'elles voulaient s'installer de manière durable. Et en fait, d'année en année, cette carte de 10 ans est devenue l'exception. Et la règle, c'est désormais d'accorder un titre de séjour d'un an aux personnes pour précariser leur situation.
Et pas plus de 3 fois.
Voilà. Et donc là, on a l'exemple type de pas plus de 3 fois d'un titre de séjour pour le travail. Et la 4e fois, eh bien, la personne risque d'avoir un refus de séjour avec l'obligation de quitter le territoire. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que il n'y a pas eu de simplification, malheureusement, du contentieux. Il y a désormais 3 délais qui s'appliquent avec la création d'un nouveau délai. Merci, monsieur Darmanin. Donc, on va avoir une procédure de droit commun avec un délai de recours d'un mois. Ensuite, le deuxième type de procédure, ce sera à juge unique avec 3 délais, 48 heures, 72 heures et 7 jours. Donc, ça va être aussi extrêmement compliqué. La rétention, eh bien, là aussi, il y a des mesures particulièrement défavorables aux étrangers. Concernant la Cour nationale du droit d'asile, concernant l'asile, le maître mot, c'est toujours aller vite, aller plus vite et encore plus vite, au détriment de la qualité des procédures et surtout la généralisation du juge unique. C'est-à-dire qu'on va perdre la collégialité avec une possibilité de territorialisation. Si vous ne le savez pas, donc je vous le dis, la Cour nationale du droit d'asile est à Montreuil. Il n'y en a qu'une en France. Et donc, il devrait y avoir une territorialisation de la Cour nationale du droit d'asile, ce qui peut être une bonne chose en soi, c'est-à-dire ça c'est un rapprochement de la Cour des justiciables. Sauf que c'est au prix de mettre en place un juge unique, donc on va perdre la collégialité qui est absolument essentielle en matière d'asile. L'OFPRA risque également de perdre le peu d'indépendance qu'il a, puisque là aussi il va y avoir une territorialisation. Ils vont être dans les guichets uniques, à proximité des préfectures. Et j'indique d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a une grève à la Cour nationale du droit d'asile avec les agents de l'OFPRA, ce qui est tout à fait inédit que les avocats et les agents de l'OFPRA fassent grève en même temps pour dénoncer cette loi qui s'attaque également aux droits d'asile et aux procédures d'asile. Et dernière chose, la rétention des mineurs. Oui. On nous a dit, voilà, ça y est, on va enfin respecter la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été condamnée 11 à 12 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour mettre en place donc une rétention des mineurs. On nous a annoncé, voilà, dans le cadre d'un texte équilibré, nous renonçons à la rétention des mineurs. Rien n'est plus faux, puisque ils pourront continuer à être placés dans des locaux de rétention et non plus les centres de rétention.
Les locaux
et
sont
surtout,
pires que les centres.
C'est 16 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, les enfants pourront aller en centre de rétention, ce qui va amener à nouveau des condamnations à la Cour européenne des droits de l'homme.
Et l'alternative à la rétention, c'est l'assignation à résidence. Et maintenant, elle sera aux frais de l'étranger.
Et on est vraiment dans un contexte xénophobe, dans une mise en scène médiatique de l'hostilité aux immigrés, essentiellement par les médias et par les politiques. Je suis tombé sur une note du Centre d'observation de la société, un institut de travail de recherche comme le CEVIPOF ou comme un certain nombre d'autres, qui eux disent que les Français ne sont pas si hostiles que ça aux immigrés. Et donc il faut construire ce discours, il faut construire des boucs émissaires et leur faire le plus de mal possible, ce que l'on vient de voir dans cette émission, pour convaincre nos concitoyens que les immigrés sont un problème alors qu'ils ne sont pas un problème.
Et il n'y a pas besoin de protéger la population française contre les étrangers, étant précisé que les étrangers font partie de la France. Voilà ce sont nos amis, nos frères, nos conjoints, etc., etc. Et il n'y a pas de « eux » et « nous ». Et ça, c'est vraiment important de déconstruire toutes ces idées.
Alors, vas-y, oui, Catherine, et après on va terminer.
Pour ceux qui veulent le faire, on peut saisir son député.
Tout à fait.
Voilà, donc il y a, en allant sur Vox Public.
Alors, le site c'est Vox Public, alors qui s'écrit V-O-I-X.
V-O-X, pas
V-O-X, pardon, V-O-X Public avec un C, point org. Et il y a effectivement, depuis le 16 novembre 2023, c'est en ligne dès le début, loi asile et immigration, la palme de l'inhumanité et de la déraison revient à la majorité sénatoriale et signée par un nombre très important de collectifs, un texte très important à lire. Et il nous invite, comme tu dis Catherine, à interpeller nos députés. Et moi, je vous redis de joindre l'ALDH à Nancy pour ces questions-là. Il faut qu'on montre qu'on ne rentre pas dans le jeu de se chercher l'immigré comme un bouc émissaire. Il n'y a pas de vrai problème quand on regarde de façon sociologique cette question-là. La France a toujours été un pays de brassage comme un certain nombre et ce n'est pas grave. On s'arrête là.
On pourrait encore parler des heures.
Oui.
Merci. On reviendra sur le sujet de toute façon une fois que la loi sera votée pour vous dire ce qu'il en est.
En 49.3. Au revoir à toutes et au revoir à tous
merci
et à bientôt.
Beaucoup,
au revoir
à nos techniciens.
Au revoir Catherine. Oui, merci.